VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Abidjan, 13h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. Crise en Libye, les deux principaux rivaux dans la crise libyenne, le chef du gouvernement de Tripoli, Faez al-Sarraj, et l'homme fort de l'Est, Khalifa Haftar, s'engagent à un cessez-le-feu et à l'organisation d'élections dès que possible, selon un projet de déclaration divulgué ce mardi par la présidence française. Nous nous engageons à un cessez-le-feu et nous prenons l'engagement solennel d'œuvrer pour la tenue des élections présidentielles et parlementaires dès que possible, ont convenu M. Sarraj et Haftar, qui doivent se rencontrer aujourd'hui sous l'égide du président français Emmanuel Macron, selon ce projet de déclaration. Plus de détails avec Morgane Guiriec.
Faez al-Sarraj, chef du gouvernement d'Union nationale, et le maréchal Khalifa Haftar, qui conteste sa légitimité, sont attendus dans l'après-midi dans un château de la région parisienne. Ils seront reçus tour à tour par le président français Emmanuel Macron avant une réunion tripartite en présence du nouvel émissaire de l'ONU pour la Libye, Ghassan Salam, qui prend ses fonctions cette semaine. L'Élysée estime que cette rencontre est en elle-même un signal fort, espérant que les deux protagonistes se mettront d'accord sur une déclaration conjointe. Sur le terrain, le maréchal Haftar a sécurisé plusieurs bases et bénéficie du soutien de l'Égypte voisine et des Émirats arabes unis. M. Sarraj, soutenu par la communauté internationale, n'a pas réussi à asseoir son autorité plus d'un an après son installation à Tripoli. Il s'agit de la troisième rencontre entre les deux rivaux. La dernière en date, au mois de mai, à Abu Dhabi, n'avait donné aucun résultat.
Conférence internationale sur le sida à Paris. Le programme de coordination de l'ONU contre le sida a besoin de 7 milliards de dollars pour pouvoir juguler ce fléau. Toute coupe supplémentaire risque de compromettre les résultats escomptés. Or, aux États-Unis, historiquement le plus gros contributeur financier à la lutte anti-sida, le président Donald Trump propose de réduire les financements de plusieurs programmes de santé. Écoutez le cri du cœur du directeur de l'ONU SIDA, Michel Sidibé.
C'est un moment de paradoxe que nous vivons. Nous avons des résultats convaincants aujourd'hui du Swaziland, un pays qui était l'épicentre de la crise, plus de 30% de prévalence. Et voilà, ce pays montre aujourd'hui qu'ils peuvent contrôler l'épidémie. Ils ont doublé le nombre de personnes sous traitement en 5 ans. Ils ont pratiquement une suppression de la charge virale qui est au-delà de ce qu'on estimait. Mais c'est les pays en voie de développement qui augmentent leur contribution dans la lutte contre le sida. Pour la première fois, on a 57% des ressources qui proviennent des ressources domestiques. Par contre, nous constatons une baisse du financement des donateurs. C'est un paradoxe. Moralement, éthiquement, ce n'est pas acceptable lorsqu'on a les outils, lorsqu'on a les résultats, lorsqu'on a une solidarité globale avec une responsabilité partagée parce que les pays africains, dans la plupart des cas, augmentent leur contribution. Ce n'est pas le moment de réduire les contributions internationales.
Le directeur de l'ONU SIDA, Michel Sidibé. En Centrafrique, regain de tension à Bangassou, dans le sud-est du pays, où l'on a enregistré la mort de casques bleus dans les accrochages entre le contingent marocain de la MINUSCA, la mission onusienne sur place, et des assaillants qui disent appartenir au groupe d'autodéfense. La cathédrale où se sont réfugiés les déplacés a subi d'importants dégâts. Plus de précision avec Vladimir Monteiro, porte-parole de la MINUSCA à Bangui.
Ce casque bleu ainsi que ses compagnons se trouvaient au bord du fleuve pour se ravitailler en eau afin de répondre aux besoins humanitaires de la ville. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont essuyé des tirs des anti-balaka. Un casque bleu en est mort, d'autres ont été légèrement blessés. Tout au long du week-end, à Bangassou, il y a eu plusieurs attaques contre les casques bleus qui se trouvent dans la ville pour protéger les populations. Le contingent marocain en particulier, puisqu'il a été une nouvelle fois touché, mais également tous les casques bleus restent déterminés, que ce soit à Bangassou, dans le sud-est, touché par les violences ces derniers temps, ou ailleurs en Centrafrique. Les casques bleus restent donc déterminés et nous répondrons par rapport à cela. Cette agression ne restera pas impunie, mais nous agirons surtout pour protéger les populations, pacifier Bangassou et s'assurer que les populations puissent retourner chez eux et pour que la ville soit à nouveau sécurisée.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Entamée depuis le vendredi dernier dans les hôpitaux publics de Kinshasa, le mouvement de grève des médecins se poursuit en ce début de semaine. Ils ont même été rejoints par les infirmiers qui, comme eux, protestent contre la baisse de leur pouvoir d'achat sur fond de chute du franc congolais. Le docteur Mankoy Badjoki est le président du syndicat national des médecins.
La grève commence par un service minimum. Le service minimum sera évalué dans 72 heures. Les salles d'urgence continueront à fonctionner comme avant. Et nous allons attendre d'abord si nous nous réunissons avec la partie gouvernementale et les conclusions qui sortiront de ces concertations qu'on va soumettre à son Excellence Monsieur le Premier ministre et pour qu'il en prenne acte.
Aux cliniques universitaires sur le campus de l'université de Kinshasa, le mot d'ordre est respecté. Mais le docteur Eric Mukenge promet une radicalisation du mouvement si les cahiers de charges des médecins n'est pas pris en compte par le gouvernement.
Le mot d'ordre a été suivi à 100% aux cliniques universitaires. Nous avons commencé avec le service minimum. Donc les urgences sont maintenues, les permanences et les gardes sont assurées. Et puis tous ceux qui étaient programmés pour être opérés les seront aujourd'hui. Et on va évaluer l'action qui a été menée et voir comment réorienter la grève si le gouvernement ne répondait pas encore à nos préoccupations. Donc au cahier des charges qui a été déposé par le Sinamed.
Comme les médecins, les infirmiers ont entamé leur mouvement de grève ce lundi. Comme les médecins, ils disent avoir perdu plus de la moitié de leur pouvoir d'achat suite à la perte par le franc congolais de 55% de sa valeur depuis le début de l'année 2017. Dans les hôpitaux, les victimes se plaignent déjà. Ses parents ont passé plusieurs heures avec leurs enfants malades à l'hôpital de Kalembelembe en attente d'une assistance médicale.
Je suis là depuis longtemps. Jusque-là, il n'y a pas de médecin. On est là comme ça, debout, en train d'attendre. Même demander qu'est-ce qui se passe. Et de mon côté, c'est vraiment pénible pour nous et les enfants. Alors, ce n'est pas quelque chose de bien que ça continue comme ça. Ce n'est pas trop bien. Pour nos enfants, c'est très, très capital.
Je suis là il y a longtemps avec un enfant qui fait la diarrhée, vomissement. On ne reçoit pas. On traîne, je ne sais pas pourquoi on dit qu'il y a soi-disant grève ou comment, mais c'est déplorable notre pays. C'est malheureux pour nos enfants, ce n'est pas correct. Vous quittez dans un centre privé où on traitait l'enfant, vous arrivez, on vous reçoit dans 5 minutes, mais on vous dit qu'allez-y là-bas, on fait les examens approfondis. Vous arrivez là plus de 4 heures, vous n'êtes pas reçu. Nous sommes là dans le couloir, regardez les parents, vous trouvez c'est normal, ils n'ont qu'à démissionner et partir.
Aucune réaction pour le moment de la part du gouvernement. Le Premier ministre poursuit toutefois les négociations avec les syndicats des corps concernés. Mais au cas où ces négociations n'aboutissaient pas, médecins et infirmiers promettent une radicalisation. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Proche-Orient, le gouvernement israélien a retiré les détecteurs de métaux qu'il avait installés aux entrées de l'esplanade des mosquées à Jérusalem. Une mesure de sécurité qui avait été suivie de violences meurtrières entre Israéliens et Palestiniens. Jean-Roger Bion.
La décision a été annoncée par le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahou après une intense mobilisation diplomatique internationale visant à empêcher une extension de la crise au-delà d'Israël et des territoires palestiniens. Le cabinet de sécurité israélien a accepté la recommandation de tous les organismes de sécurité de remplacer l'inspection au moyen de détecteurs de métaux par une inspection de sécurité basée sur des technologies avancées et sur d'autres moyens, a déclaré le bureau du Premier ministre dans un communiqué. Il n'était pas possible de savoir immédiatement quelle était la nature des technologies avancées en question, mais des caméras ont été installées cette semaine à certaines entrées du site.
Et pour terminer, Côte d'Ivoire, près de 150 scientifiques de toute l'Afrique sont réunis près d'Abidjan de lundi à jeudi pour créer la Société africaine de primatologie avec l'objectif de sauver les singes menacés d'extinction sur le continent. La situation des primates est catastrophique. Plus de la moitié des espèces africaines sont menacées de disparition. Les causes de la baisse des populations des primates en Afrique sont connues. La chasse et le braconnage, la disparition de leur habitat, notamment les forêts, à cause de l'extension des activités agricoles humaines, de l'exploitation exagérée du bois, des mines et de l'urbanisation. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.